Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Ah, c'est le dernier jour sans Nagui. Nagui, toujours, toujours en séminaire de travail aux Maldives. Autour de la table aujourd'hui, Albert Albou.
Bonjour.
Marina Rollman. En deuxième heure, Tanguy Pastureau viendra dézinguer l'actualité. Là, pour la cinquième et dernière fois, je suis accompagné par la délicieuse Leïla Kadour Boudadi.
Salut Daniel Morin, bonjour à tous. Et aujourd'hui, la bande originale reçoit Monsieur Antoine Duléry.
Alors là, oui, je dis oui.
Oui, bravo.
Je suis tellement heureux d'être là, entouré de mes amis.
En forme?
Super en forme.
Super.
Ouais, j'ai tourné un film, je suis sur scène, je suis un acteur heureux. Et puis je suis entouré de gens que j'apprécie.
Alors justement,
Albert
la scène.
Algou. Oui, ma chère Leïla.
Oui, Antoine, la scène. Vous
oui.
êtes au théâtre de la Gaîté Montparnasse pour Antoine Duléry nous refait son cinéma. Vous avez commencé en septembre. On va jusqu'en décembre, c'est ça l'idée?
Décembre,
31.
Décembre.
De l'année prochaine.
On verra, que Dieu t'entende. Oui, là, je joue tous les samedis, dimanches, à 17h. Voilà. Puis après, on verra. Comme ça, parfois, je tourne aussi la semaine des films.
Ouais.
Non, mais c'est très bien et c'est un horaire qui est très agréable. Voilà.
Alors, le spectacle. Alors, on est venu vous voir, on est venu vous
gentil,
applaudir.
C'est gentil. Voilà des journalistes qui font leur métier, Albert. C'est tellement rare.
Et sincèrement, on a passé un très, très bon moment avec vous. On va y revenir tout à l'heure avec...
Un spectacle torride et drôle à la fois.
Alors oui, c'est ça. On
va
pas tout dévoiler.
On
va pas tout dévoiler. L'histoire de départ, c'est que vous êtes dans une soirée avec des copains et vous n'arrivez pas à partir, Antoine Duléry.
Jamais. Je suis parti de... C'est du jardin. Il faut rendre à César ce qui est à César, avec qui je suis très copain. On avait commencé à travailler sur ce spectacle il y a quelques années. C'est lui qui m'a dit, il faut qu'on parte de toi. T'es un mec plutôt généreux, tu nous fais rire, tu fais une imitation, tu peux jamais partir d'un repas, tu me fais l'armée des ombres dans la rue, etc. Il faut qu'on parte d'une fin de repas. Donc j'ai repris cette histoire, effectivement, d'un type qui ne peut pas se barrer d'une soirée. Et ce qui est très amusant, d'ailleurs, je la raconte parce que c'est vrai. Un jour, j'étais dans une soirée comme ça, il y avait un pot, un truc qui est organisé au Fouquet, tu sais, avec plein de gens, etc. Je me souviens, j'étais avec Omar Sharif, tout ça.
Et Sarkozy.
Puis à un moment donné, non, Sarkozy n'était pas là, il était ailleurs. Voilà, il n'est pas toujours au Fouquet. Mais j'aime beaucoup Albert. Je vais te répondre. Je vais vous répondre. C'est un débat démocratique. Laissez-moi vous répondre. Parce que si je suis là, que je ne peux pas vous répondre, je me demande pourquoi je suis venu.
Puis c'est pas tous les jours vous êtes invité sur France Inter.
Non, je sais. Ça, France Inter, j'aime pas beaucoup.
On vous a jamais eu dans la bande originale, Nicolas Sarkozy.
J'aime beaucoup Leïla parce que Leïla, elle est très belle. Elle me fait penser à Carla. Hein,
oui.
Mais différemment. Je vais revenir à mes propos, monsieur Morin. Monsieur Morin, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, monsieur Morin. Mais qui s'arrête plus. Ça vient de l'émission. Alors, donc j'étais.
Antoine Duléry, le retour.
Antoine Duléry, le retour. Et donc j'étais invité dans cette soirée. Très sympa. Il y avait plein de monde. J'étais avec ma femme. Et puis brusquement, il y a Carlos, le terroriste, le chanteur, qui était très sympa. Je vais discuter avec Carlos. C'était bon, la soirée continue. Puis, je cherche Pascal, ma femme, je la trouve pas. Merde, où c'est? Alors je l'appelle. Où tu es? Et elle me dit, je suis rentré à la maison. je savais que t'allais jacter encore pendant des heures et des heures. Je te laissais avec tes amis.
Elle vous connaît
donc,
bien.
Elle me connaît bien, depuis longtemps. 21 ans. Voilà. Et donc, je suis parti de ce propos. C'est une sainte.
Médaille.
Et c'est pour ça que... ouais, mais je la paye cher. Et,
Pascal m'a dit.
Pascal m'a dit, c'est joli ça. Pascal m'a dit.
Ouais, je suis comme ça.
C'est énorme, mon petit Morin. Et donc, je suis parti de ce principe, effectivement. Et ça me permet après de me balader dans toutes ces imitations. Mais encore une fois, je préfère dire que c'est un spectacle d'évocation, on va y revenir. Et puis on passe comme ça, on revient dans le passé, on va dans le futur. Enfin, bon, c'est un peu délirant, anachronique, surréaliste, drôle et je crois un petit peu touchant.
Ouais, parce que partir, c'est à la fois quitter les amis, puis c'est quitter tous les grands monstres sacrés que vous avez en vous, que vous avez croisés, que vous avez admirés.
Ouais.
Et que vous nous donnez finalement la chance de croiser sur scène.
Exactement, je les croise et en plus je fais des croisements. Donc c'est très juste parce que Lucchini va rencontrer Jouvet, Michel Serrault, Delon veut jouer les rôles de De Funès, des trucs qui sont improbables. Salomon, vous êtes juif, je vous garde quand même. Serrault, dis-moi, on m'a toujours dit que j'ai cassé la biscotte. C'est pas moi qui ai cassé la biscotte, c'est la biscotte qui m'a cassé parce que moi ce que je voulais jouer, c'est les rôles de Robert De Niro et il fait c'est à moi que tu parles. Il fait Taxi Driver et De Niro fait You fuck my biscotte. Je fais des... Enfin, vous l'avez vu, mais pour nos auditeurs, je fais truc. Et à un moment donné, effectivement, je reviens dans les années 40, etc. Parce que je voulais faire, pas un spectacle d'imitation, encore une fois, mais trouver une histoire autour de tous ces acteurs, effectivement, que j'ai eu la chance de croiser. Ceux qui sont encore là, Dieu merci, et puis ceux qui sont partis, parce que c'est vrai. Et puis je raconte des vraies anecdotes qui me sont arrivées avec Jean Marais, avec Johnny, tout ça. Donc voilà, c'est un voyage.
Et puis c'est émouvant aussi, c'est très drôle. Ouais. On a vraiment des moments de fou rire absolu. Et puis il y a des moments émouvants quand vous êtes avec votre psy, on va dire,
ouais,
et que
ouais,
tout d'un coup, on est aussi dans ce que c'est qu'être un comédien, être ouais. sur scène, parce que vous avez une palette assez incroyable de personnages,
ouais.
mais il y a vous.
Ouais. Oui, il y a moi aussi. Pourquoi toujours cette façon? Oui, il y a un psy qui une espèce de chapier qui me dit, mais pourquoi toujours imiter les autres? Pourquoi n'être jamais soi-même? Et en fin de compte, c'est le pari de l'acteur, c'est qu'il n'est pas bien dans sa peau, il est toujours mieux dans la peau des autres. Alors moi, c'est passé beaucoup par les imitations. Mais bon, comme imitateur, c'est pas acteur, je me méfiais un peu. Je voulais pas faire encore une fois un spectacle. Puis un jour, Muriel Robin m'a dit, maintenant qu'on te connaît comme acteur, fais profiter au public de ces imitations plutôt que de les faire qu'à tes copains en fin de repas. Ce qui était un peu le cas, parce qu'à chaque fois, Leloup, je me demandais de faire ci, l'autre, fais-moi Prévost, Anconina, depuis des années. Et à un moment donné, voilà, je l'ai fait.
Vous êtes un jukebox, en fait.
C'est vrai qu'on vous suppliait de nous traiter d'un ringard, par exemple.
Tais-toi, t'es à chier. À la Prévost, ta gueule, Morin, fous-moi le camp, dégage, t'es à chier.
Avec le doigt pointé.
Tais-toi, ta gueule, fous-moi le camp. Vous êtes tous des ringards, t'es à chier, toi, Marina. Tais-toi, Morin.
Antoine Duléry est très désagréable, mais il sera avec nous quand même jusqu'à midi et demi dans la bande originale. Alors, on a eu pas mal d'indices, mais John Jack Lang, est-ce que vous avez bien compris pourquoi Antoine Duléry était notre invité?
Évidemment. Hello, les has-beens de la BO. En dépit des milliers de followers qui connaissent mon profil, je tiens à le préciser, comme vient de le dire ce cher Daniel Morin, je suis effectivement le cousin de Jack Lang, tout en étant plus connu, il est vrai, sous le sobriquet de Gigi, quand, pour l'after, au sortir du Banana Café, vers les 3h du matin, on va souper entre copains de tous les sexes, de toutes les cultures, bon, même les plus grands d'ailleurs. Eu égard aux immenses talents d'imitation d'Antoine Duléry, juste avant l'émission, mon excellent ami Albert Algou, expert en imitation pour avoir travaillé, comme vous le savez, avec les plus grands, Albert m'a dit, Gigi, là je vais essayer d'imiter sa voix, pourtant c'est difficile.
Allez-y.
En présence d'Antoine Duléry, ne laissez surtout pas intervenir un mauvais imitateur de votre cousin Jack, ça serait aussi inconvenant que pénible. D'autant plus que Jack, putain je suis en train de perdre sa voix, que Jack était maintes et maintes fois imité, décalqué, parodié, pastiché, plagié, copié,
oui.
et surtout pompé, et repompé. Quand je dis pompé, je sais de quoi je parle. Bon, voilà qui est fait. Maintenant, très cher Antoine Duléry, je peux vous dire que vous faites bien davantage que refaire votre cinéma. En effet, en faisant revivre autant de comédiens dont vous saisissez pour mieux les singer, les inflexions, les tics, les tocs et le tac au tac de leur réplique, non seulement vous refaites votre cinéma, mais encore, à vous seul, vous êtes la fête, l'acteur du cinéma. Ce que je viens de dire, c'est tapé, non?
Oui, ça c'est
ah oui, Daniel et Leïla, en l'absence de ce cher Nagui qui est incarcéré, question mouillage de compresse, je me pose un peu là. Mais je ne suis pas le seul à partager cet enthousiasme, et quelques amis sont venus avec moi pour le manifester, comme Jean-Philippe Pétain, le neveu du maréchal.
Cher Duléry, c'est le cœur serré d'émotion que j'ai assisté à votre récital. En faisant revivre Louis Jouvet et Albert Simon, vous avez ramené aux heures douloureuses de 1940, où avec mon oncle, mon tonton Philippe, nous avions trouvé un peu de réconfort en allant voir La fin du jour de Julien Duvivier au casino de Vichy.
Putain, c'est sympa, non? Il y a aussi Jean-Dominique Besnéard, cousin de l'ex-agent et orthophoniste des stars. À toi, Jean-Do.
Duléry, c'est saisissant quand il refait son cinéma. Michel Serrault qui dit du De Niro, Delon qui sort du De Funès, les pouchetouflants. Mais il sait aussi être vachement roche, le Duléry. Francis Huster, qu'est-ce qui se prend dans les gencives?
Enfin, un autre de vos admirateurs, Jean-Pierre, c'est Jean-Jean-Pierre Coff, le cousin du regretté Jean-Pierre. Avec le chaud savoureux d'Antoine Duléry, vous allez vous régaler. C'est vraiment pas de la merde. Alors allez-y, les enfants, allez-y. Moi, en tout cas, j'y retourne. Salut Antoine, bonne émission.
Bravo.
Merci, John-Jack.
Il est très, très bon, notre ami Albert. Dis donc, il en fait vachement bien. Besnard, c'est vachement bien. Tu sais quoi, j'ai cru me reconnaître.
Beaucoup de sensibilité.
Ça me rend dingue, là, de vous avoir en stéréo.
J'adore, parce que tu sais, à chaque fois, il me dit, il faut que je vienne te voir. Je n'ai toujours pas venu me voir. Désolé, j'ai entendu beaucoup de bien. En tout cas, je tiens à dire que...
C'est
vrai. Ça va être infernal.
J'adorais mon cousin.
Allez, viens, on va prendre un café.
J'adorais mon cousin, j'adorais Albert Alcou, la fête de la musique, la Gay Pride. Et puis, j'ai aussi
Peter. La technoparade. Je t'ai pas vu.
Là, en tout cas, je suis très content que tu m'aies fait revenir. Mais là, je suis en train de partir avec Pierre Fresnel. Non, c'était pas Pierre Fresnel.
Antoine,
c'est vachement bien. Super,
mais j'ai pensé réellement, quand je parlais de la fin du jour, moi, j'avais vu le spectacle. Et j'avais été très ému à un moment, parce que le retour des personnages, c'était, là, c'était un hommage. Il y avait de l'émotion, ce qui est très, très dur. Dans l'imitation, c'est pas évident de glisser l'émotion, parce que ça pourrait être du pathos, mais ça ne l'est pas avec
toi. Je te remercie. Non, je voulais faire un truc un peu à l'italienne. On rit, on pleure. Voilà, donc, si l'émotion est là, ça me touche beaucoup, et c'est vraiment ce que je voulais faire. Et la fin du jour est un très, très, très bel exemple, mon cher Albert, parce que c'est un film extraordinaire que je recommande à tous nos auditeurs, qui est un vieux film de Julien avec Victor Francen, Michel Simon et Louis Jouvet. Et c'est un film extraordinaire sur des vieux acteurs.
Qui alors se retrouvent justement, dans une maison de retraite. Dans cette galerie de personnages, ce spectacle Antoine Duléry nous refait son cinéma La Gaîté Montparnasse. Le spectacle a évolué.
Oui, il a beaucoup évolué depuis quelques années que je le joue, parce que d'abord je commençais, pour ceux qui l'ont vu, je commençais le spectacle en sumo.
Mm-hmm. On aime le sumo.
On l'a déplacé. Non, ça a évolué. J'ai un
si
co-auteur.
On insiste, on a le sumo là.
Ah, on a le sumo, bien sûr. Il faut payer un peu plus cher. Et puis c'est de la radio. Mais non, avec mon co-auteur et le metteur en scène qui est Pascal Sériès, qui est un mec formidable, on a vraiment à chaque fois, mais c'est génial un spectacle, c'est comme un film qu'on remonte sans arrêt, donc j'ai affiné des choses, là j'ai changé des choses pour La Gaîté Montparnasse, j'ai ajouté des personnages,
alors, voilà.
j'ai fluidifié certaines choses, j'ai enlevé, il y avait un personnage un peu ringard qui était tout le temps là, qui était marrant, mais qui, d'un coup on l'a viré, tu vois, c'est tout le temps, donc puis là, dans cette salle magnifique de La Gaîté, je voulais un truc comme ça, encore plus théâtre, et tu vois, parce que c'est vrai, c'est un théâtre à l'italienne qui est magnifique, donc il y a une résonance, voilà, un peu la fin du jour où le jour se lève.
Et c'est alors, très agréable, c'est aussi, il y a des, pardon Leïla, des personnages qu'on n'imite pas, d'habitude on n'entend pas d'imitateur le faire, comme l'exemple qui me vient, c'est Patrick Chesnais, c'est confondant.
C'est marrant ce que c'est. C'est marrant que tu dis ça, parce que un jour j'ai fait un film il y a très longtemps avec Arcadie qui s'appelait Mariage Mixte, avec Darmon et Chesnais et moi, et donc j'ai été invité dans une radio comme ça, qui était je sais plus quoi, et il y avait Darmon, évidemment moi, et puis brusquement le type dit Chesnais n'a pas pu venir, et je dis si, le voilà. Et j'ai fait Chesnais. Mais j'ai jamais dit que c'était pas moi. Hein. Donc je pense que les gens ont cru qu'il est arrivé. Je fais si, le voilà. Le mec m'a regardé, mais pourquoi vous dites ça? Il n'est pas là. Si, le voilà. Puis j'ai fait excusez-moi, je suis un peu en retard. Alors, ils ont tous joué le jeu. Darmon a joué le jeu. Il a fait tu es content du film?
Je suis très content d'avoir joué avec Antoine et Jean Darmon. Alors la fille a fait bon, merci Patrick.
Alors,
c'est pas mal.
On sent une véritable affection que vous avez pour tous ces personnages que vous incarnez.
Ouais.
Ça veut dire qu'il faut nécessairement les aimer un peu.
Oui, je le dis dans le spectacle. Quand Johnny me fait dire, ouais, tu ne seras pas en train de m'imiter là, et je fais je t'imite, mais comme tous ceux que j'aime et que j'admire, c'est vrai, comme toi, comme Jean-Paul Belmondo, puis hop, là je fais Belmondo. Oui, moi, si vous voulez, c'est un don que j'avais depuis tout petit de piquer, de voler comme ça les gens, mais c'est vrai que je ne travaille pas mes imitations, elles viennent comme ça parce que j'observe beaucoup, j'ai beaucoup dessiné. C'est vrai que j'ai un don d'observation, mais je n'imite que les gens que j'aime, j'ai jamais travaillé l'imitation.
Donc,
je m'emmerde pas à faire oh, tiens, fouche. Non, je n'ai pas imité les gens que je n'aime pas, ils ne m'intéressent pas.
Et quelle a été votre première imitation?
C'est des gens que personne ne connaît. C'était
de vous?
Ouais, en Bretagne, c'était mes grands-parents. J'imitais le type qui vendait le vin. Je le fais toujours avec cousine, le marin qui s'occupait de de la maison de mes grands-parents et des bateaux. Enfin voilà, quoi. J'ai commencé par des gens que personne ne connaît, des gens de ma vie.
Mais pour faire rire votre entourage, voilà.
Alors après, si j'ai commencé en 74, je me souviens, et j'avais imité, c'était donc l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Une des premières que j'ai fait, c'est Valéry Giscard d'Estaing. J'avais 14 ans.
Au soir de ce jour, date une heure nouvelle. Enfin, deux choses. Alors, d'abord, il y a le François Morin, elle est là. Deux choses. Alors, voilà. D'un côté, il y a Albert Alcou. François Morin, je vous raconte pour deux choses. D'abord, la France n'est pas dans sa version. Il y a des choses comme ça. D'un côté,
c'est un peu la première pour revenir. Et après, après, assez vite, j'ai imité Serrault. Là, une des premières aussi, c'était Michel
Serrault. C'est magnifique.
Ce qui fait que c'est. Ouais, merci beaucoup, Leïla.
C'est magnifique.
Et Serrault me disait toujours, tu m'imites toujours. Et moi, je faisais, non, Michel, tu parles, il le savait. Mais il m'aimait bien.
Il y a aussi physiquement, moi, j'ai été stupéfaite, votre imitation de De Niro. Là, vous venez de faire Giscard, mais à chaque fois, il y a même. Voilà, c'est physique.
Ben, oui,
c'est
parce
indispensable que tout d'un coup, votre visage se métamorphose pour accompagner une voix.
Oui, parce que ça vient de, comme dirait Bernard Lavilliers, c'est une musique qui vient de l'intérieur. Non, mais c'est vrai que dès que je fais un truc, parfois, il y a des grands imitateurs, hein, on en connaît. Hein, Laurent Gérard, tout ça, c'est du très très lourd, mon chéri. Canteloup, enfin, on les connaît.
Moi, j'étais très très bon, toi aussi.
Lebray, mon chéri, tu es gentil. Mais c'est vrai que moi, comme je... Voilà, c'est pas vraiment mon métier, mais je deviens vraiment lourd, donc ça vient de l'intérieur. Voilà, donc c'est vrai que la tête, si je fais pas la tête, je peux pas imiter, quoi.
Mais physiologiquement, ça s'explique. Des grands phoniatres comme Abitbol, docteur Abitbol, explique physiologiquement les connexions entre les muscles, les muscles intérieurs, les muscles du visage et la tessiture, tout ça marche ensemble.
Exactement.
Et il y a des explications scientifiques à ça.
Oui, et tu sais, même mais quand je fais un film, j'imite en général, même sans faire de voix, j'imite sur un geste, le machinot, le truc, le mec qui appelle son chien, je les croque comme ça. Mais c'est vrai que ça vient vraiment de l'intérieur, ce qui fait que c'est un peu, un jour j'avais tourné un film il y a très longtemps avec Claude Rich. Un jour, Pascal, ma femme, me dit, tu marches comme Claude Rich et tu parles comme Claude Rich. D'un coup, il était venu en moi, tu vois. Alors voilà, c'est Claude Rich. Ce qui fait qu'un jour, j'ai appelé Jean-Paul Belmondo, que j'aime beaucoup. Et je l'ai appelé et je me suis fait passer pour Claude Rich pendant 10 minutes. Il m'a fait, ah, salaud, c'était toi. Alors voilà, Jean-Paul, c'est... Alors voilà, on fait hommage d'ailleurs à Claude qui nous a quittés cette année.
Mais vous avez une oreille particulière pour pouvoir saisir ça, parce que...
Je crois que c'est une oreille, ouais, c'est une oreille de tout de suite de saisir... ouais, comme ça. Alors, il y en a que je fais pas, mais encore une fois, je ne décide pas. Il faut vraiment que j'ai une sympathie pour eux, pour les observer.
Et les femmes?
Les femmes, bah, j'en fais évidemment moins, parce que c'est moins facile.
C'est la tessiture, là.
La tessiture. Oui, oui. Mais dans le spectacle, je m'amuse à faire Barbara, et puis voilà. Et puis, il y en a une que j'imite pas mal, c'est ma copine, Catherine Jacob, tu vois. Elle verra le goût, c'est un gros con. Vraiment un gros con, le goût. Je fais un petit film avec Châtillier. Les connards, là. Tous sont connards, ces mecs, je peux pas les blairer. Voilà, c'est ma copine, Catherine Jacob.
Mais le but ultime, Antoine.
Oui.
Ce serait de vous imiter vous-même.
Ah, oh, mais ça, j'oserais jamais. Tu sais que c'est marrant que tu dises ça, parce qu'il y avait effectivement...
C'est ça, le but ultime.
Rému, ou je ne sais plus qui, imitait très bien comme ça. Et je crois que c'est Rému. Et Marcel Pagnol lui a dit un jour, t'en as pas marre de faire, je ne sais pas quoi, Harry Bore, enfin tous les acteurs de sa génération, et tu ne pourrais pas t'imiter une fois. Il a fait, j'oserais jamais.
Et qui vous imite?
Il y a un copain qui s'appelle François Vincent Telly qui m'imite pas mal. Qui est un acteur très bon, très sympathique.
Et François... a vu dans Hard.
Ouais, exactement. Notamment. Et François, il m'imite pas mal. Ben, il m'imite pas en train d'imiter, mais il m'imite. Salut, comment tu vas? Je suis tellement content de te voir. Ça va, le côté, ça va. J'étais avec Johnny hier soir, puis j'ai vu Jean-Paul. Il se fout de ma gueule, mais il me fait assez bien.
Ah,
il me fait assez bien.
Non, c'est parce que vous aimez bien.
Comment tu vas? Ça va, je suis très content, ce côté convivial. Bonjour. Ça me fait plaisir. Alors, il me caricature un peu. Je lui ai foutu un pain dans la gueule.
Normal.
Non, mais tu es sur le point de t'imiter toi-même. Donc c'est.
J'espère que je vais surtout pas m'imiter comme acteur. Parce que ça voudrait dire que je me recopie. Mais quand je joue, j'essaye de faire des personnages différents.
Ce qu'il y a d'agréable là, dans le spectacle, on a l'impression qu'on est invité chez vous.
Exactement.
On a l'impression qu'on arrive chez Antoine Duléry et que, comme un bon hôte, vous nous mettez à l'aise et vous nous faites des personnages.
Mais c'est exactement ça, parce que c'est la fin de repas. Et comme je dis, je ne suis pas là parce que je suis dans une soirée, je le dis aux gens. Et puis après, je les embarque à une soirée. Et c'est vrai que souvent, je dis c'est vrai qu'on a l'impression que je suis, et surtout dans ce théâtre magnifique de la Gaîté Montparnasse, qui est un théâtre vraiment pile poil de 400 places, qui est génial, quand je suis sur scène, j'ai l'impression un peu d'être dans mon salon. C'est vraiment super.
Et vous restez pas sur scène?
Non, je descends.
Eh ouais.
Je descends parce qu'à un moment donné, je casse. C'est là où le spectacle devient un peu surréaliste, mais il est très amusant. C'est que je casse le mur, le fameux quatrième mur du théâtre. Et à un moment donné, je fais Barbara, etc. Et Lucchini, qui est dans sa soirée, me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu imites Barbara? Et c'est quoi ces rires? Et d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a du monde dans son salon. C'est le public. Donc là, je descends.
Mais c'est très dérangeant d'habitude dans les spectacles quand il y a une victime qui a été désignée ou choisie par l'artiste. Mais là, c'est un moment où on rit. Et même ceux qui en font les frais sont morts de rire.
Oui, parce qu'ils savent qu'en Lucchini, je peux me permettre tout.
C'est ça.
Une espèce de cynisme, de méchanceté. qu'il a, Fabrice, il a ce côté un peu cynique de balancer des vannes. Donc, je peux tout me permettre. Et les gens le prennent bien. Après, je sors, je me dis, il y a une porte, mais c'est énorme.
C'est génial.
Je vais dans le hall, je parle avec une ouvreuse, je lui dis comment vous êtes, et puis elle me dit son nom, je la drague. Après, je sors, il y a une rue avec des... Ça devient, enfin, vous avez vu le spectacle, ça devient un peu surréaliste. Alors, quelquefois, je monte en haut, je fais, mais c'est incroyable, il y a un premier étage. Et puis, quand il y a des gens connus, évidemment, je parle d'eux. L'autre jour, il y avait Jean-Paul Belmondo qui m'a fait l'amitié de revenir pour la quatrième fois. Évidemment, tu t'imagines bien que les gens l'avaient vu, mais quand je suis descendu dans la salle, j'avais mis le sosie de Jean-Paul Belmondo. C'est le musée Grévin, mes chéris. Alors là, les gens se lèvent, applaudissent. Moi, j'adore.
C'est quand de l'impro, Prévost... c'est oui, de l'impro
complètement.
Total.
Complètement. Puis je jouais avec les chants. Quand Prévost était venu, c'était extraordinaire. C'est... Tais-toi, t'es à chier. J'ai dit, oh, il y a le sosie de Daniel Prévost. Mais il est plus ringard que le vrai, j'ai dit.
Antoine Dullier est avec nous jusqu'à 12h30 dans la bande originale sur Inter. I'm in love with it, intoxicated. I'm in rapture from the inside. I can feel that you want to wake up high on it, feeling suspended. I'm enamored, way up in the sky.
The XSI Dare You. Nous sommes toujours, bien sûr, très très bien accompagnés, puisque c'est Antoine Duléry.
Tu parles anglais vachement bien.
T'as vu ouais.
Antoine Duléry.
Yeah.
Antonio Duléry, qui est avec nous jusqu'à midi et demi. Attention, si je me fous de lui, il est en train de me faire la tête de De Niro. J'ai très très peur. Antoine Duléry refait son cinéma à la Gaîté Montparnasse. C'est jusqu'au 31 décembre, mais là, il est dans la bande originale, jusqu'à midi et demi. Content d'être là, Antoine.
Moi, je suis très heureux d'être là. À chaque fois, tu le sais, Daniel, parce qu'on va arrêter de se vous voyez. Moi, je te tutoie. J'en ai rien à foutre.
J'entends ça.
On se connaît, on s'aime bien. Moi, je t'aime bien et je suis très heureux d'être là. Moi, je suis heureux d'être là. On parle bien avec Leïla, Albert, Marina.
Absolument.
Et c'est vrai que c'est très agréable parce qu'on a le temps de parler vraiment. C'est pas toujours le cas maintenant. Donc là, c'est très convivial. J'ai l'impression d'être dans mon salon.
Et bah tiens.
Voilà.
Et bah tiens, bah dans ton salon, justement, tu étais en train de parler d'elle. La voilà, attention, Marina Rollman.
Arrêtez. Alors les amis, ça y est, c'est les vacances, l'occasion de ne rien foutre, mais pas comme des amateurs. C'est pourquoi je voulais partager avec vous le vrai secret des spécialistes de la flemme. Cet état semi-végétatif que les neurologues ont encore du mal à s'expliquer entre la mort cérébrale et le coma, qui consiste à regarder du golf à la télévision.
Ah ouais.
Alors ça, vraiment, pour les amateurs de néant, c'est d'un raffinement inégalé. Parce que déjà, il ne se passe rien à l'écran. Hein. Bah oui, une compétition de golf à la télé, c'est réunir des types habillés comme Juppé à une soirée pute et pasteur. Pantalon canari, polo rose, chaussures de clown qui iraient au bowling. Et de les filmer en train de trottiner, avec plus ou moins d'aisance, hein, selon l'avancée des problèmes de prostate de chacun, entre une petite colline sans grand intérêt et un repli de terrain tout aussi quelconque. Voilà. Et ça, c'est 85% du temps d'image. C'est suivi d'un quart de millième de seconde excitant où les types tapent la balle, tu clignes des yeux, tu rates l'action. Suivi de 17 secondes d'un plan panoramique sur 4 pixels blancs qui filent à 240 km/h sur une étendue bleu clair. Et puis pour se remettre de toutes ces émotions, ben voilà, on se remet à trottiner pendant 10 minutes. Donc autant dire qu'en termes de récit, c'est le vide absolu à l'écran. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que même au son, il ne se passe rien. Bordel. C'est incroyable. Les commentateurs, déjà, ils chuchotent. Et puis, comme ils ont peur de louper les trois seuls trucs intéressants qui vont se passer sur les 16 heures de retransmission, bah, ils prennent des temps en parlant, pendant lesquels ils n'ont aucun complexe à respirer comme des buffles dans le micro. Et tu ne sais pas si c'est pour ajouter du suspense ou s'ils avaient prévu une plongée bouteille le même jour et que donc ils commandent par Skype. Mais le résultat, c'est... Et maintenant, McFly et McKenzie qui attaquent le trou numéro 3 de cet Open du Pays de Galles. Et sur votre droite, le spectacle majestueux d'une Raymanta. Je les admire, les commentateurs. Je veux dire, c'est très difficile d'échapper à la condition de chianteur absolue des images. Mais donc voilà, ils meublent en faisant ce qu'ils peuvent. Tu vois, ils parlent du paysage ou de la biographie des joueurs. Et ça, en l'occurrence, c'est pratique parce que comme le golf, c'est quand même un sport pas trop exigeant sur les adducteurs. Hein, tu peux jouer à bon niveau jusqu'à 130 ans. Puis après, il te reste toujours la Ligue Senior. Ça donne pas mal de matériel aux commentateurs. Tu vois, ils ont toujours des anecdotes genre ah, on se rappelle de son début de carrière en Cochinchine. Il avait battu l'Austro-Hongrois et remporté le prize money de 80 000 louis d'or. Mais même là, tu vois qu'il peine à dire des trucs intéressants. Tu vois, on dirait les commentaires de Miss France quand elle défile en maillot de bain au micro. T'as Jean-Pierre Foucault qui sue et qui se sent obligé de nous rappeler qu'Océane Jeanneret entame sa troisième année de formation vétérinaire parce que sinon, il serait obligé de verbaliser le fait qu'il y a quand même une dame en train de nous montrer ses seins à l'écran pour gagner une écharpe en viscose. Voilà, c'est le désespoir absolu, quoi. Mais donc, pour en revenir au golf filmé dans un climat télévisuel un peu darwiniste comme ça, qui voudrait que si Hanouna est pas en train de récolter des fonds en criant pour payer pour une cabane de jardin pour une fanzouze, pendant qu'un chroniqueur se fait raser la tête sur fond de concert de Zaz, le tout en split screen avec un prime des anges de la télé-réalité, les gens zappent. Et alors tout à coup là-dedans, le golf à la télé, ça devient une respiration, un non-spectacle absolu qui, cela dit, pour les novices peut être un peu violent du premier coup. Alors échauffez-vous peut-être avec du cyclisme ou Public Sénat pour commencer. Mais surtout, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on ne fait rien qu'on ne peut pas le faire bien. Allez, bonnes vacances, bande de feignasses.
Marina
Rollman. La bande originale. Dis-moi, elle est très drôle, Marina. Qu'est-ce que tu m'avais raconté, toi, Daniel?
Je sais pas, j'avais bu.
J'arrive, il m'a dit, il y en a une qui n'est pas très drôle. Ben, je suis pas d'accord. C'est très drôle, Marina. Le golf, c'est génial. Le golf, c'est vrai que c'est tout à fait ça.
C'est fascinant à voir.
C'est tout à fait ça. Ça se passe rien.
Comme ça.
Et je pense que c'est impossible pour vous, quoi, Antoine Duléry.
Non, mais oui, quand je vous vois sur scène, je vous vois complètement mais surexcité. Je me dis, il doit sortir de là, mais complètement vidé. Donc,
Le golf, mais il paraît que c'est génial le golf. J'ai jamais fait. Tout le monde, tous mes potes me disent, c'est génial.
Moi, je pense que ce serait l'enfer pour les autres. Les gars en train de se concentrer.
Je parlerai tout le temps.
Il y a Antoine Duléry qui arrive. Ringard !
Et toi, t'es à chier, Morin. J'ai encore raté le trou.
En même temps,
c'est pas un golf, c'est un gruyère. Il a un gruyère dans la tête. Un golf plein de trous. Il est à chier, Morin. Ta gueule, Dayla.
Ah, mais dis donc,
ta gueule.
Allez, le parcours d'Antoine Duléry en quelques dates.
Le neuf
bien
trous.
Entendu. Oui, non, juste quelques trous. Ah. Allez. Le neuf trous. Le neuf trous d'Antoine Duléry. On commence en 1976.
On ira. Oui, aïe, aïe. Où tu voudras, quand tu voudras.
Ça me donne envie de regarder du golf.
C'est 75, hein. C'est 75, ça, je crois.
76.
C'est 76, même.
Il a écrit en 75.
Ah, bah, tu vois, je m'étais pas bourré quand j'ai sorti la date.
Et alors, la date est hyper précise. C'est le 27 janvier.
Oh la vache.
Et le 27 janvier 1976, il paraît que vous décidez de, Leïla,
d'être acteur, de Cinoche.
Ah ouais, 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 moi c'était le cinéma. Oui, c'est ça, c'est 15 ans, 16, oui, 16 ans, mais vous avez raison, j'avais 16 ans. Et oui, 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 c'est là où je me dis, je veux être Belmondo.
Qu'est-ce qui s'est passé ce 27 janvier?
Bah, je sais pas, peut-être pas le 27 janvier type, mais si, il s'est passé un truc.
Si, si,
bon.
Non, mais je sais pas.
Non, mais moi je faisais rire tous mes copains sur l'île de Bréa. Et donc, je sais pas, j'avais besoin. J'étais très timide. Et donc, j'étais très heureux quand je faisais rire. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut que je sois acteur, il faut que je me déguise, je voulais être le capitaine, je voulais être l'homme de Rio, je voulais être tout ça, tous les films de... Et donc j'ai décidé de faire ce métier, ouais, à 16 ans, et à 18 ans, je suis allé chez Florent.
Et c'est votre père qui vous dit, il faut faire du théâtre.
Oui, parce que
pour
j'ai
faire
eu
un... du cinoche, il faut faire du théâtre.
Oui, oui, parce que bon, c'est vrai que j'allais pas tant que ça au théâtre, donc je voyais, on voit les mecs à l'écran, mais on se dit, comment on veut être acteur de cinéma, mais comment on fait? On n'est pas arrêté dans la rue comme Delon. Donc mon père m'a dit, parce que son propre père était acteur de théâtre, mon grand-père.
Il était pensionnaire à la Comédie Française. Albert Duléry.
Dit Albert Réval, mais que je n'ai pas connu malheureusement, parce que donc il était mort quand je suis né, donc je n'étais pas un fils d'acteur. Un petit-fils d'acteur, mais pas un fils d'acteur. Et mon père m'a dit, mais tu sais, il faut faire du théâtre. Ça me faisait très peur, mais il avait raison. Donc je suis allé, mon père avait raison, comme disait Sacha Guitry. Et donc je suis allé chez Florent, voilà, tout simplement. Mon père m'a déposé en 78, en bas de chez Florent. Et tout a commencé là.
Il n'est jamais venu vous rechercher.
Jamais venu me rechercher, c'est joli ça. J'ai monté les marches, les jambes tremblantes. Je me souviens que c'est Dominique Blanc qui m'avait inscrit, je ne sais pas quoi, qui était là. Et après, tout a démarré là.
Et votre grand-père, en fait, pour revenir à lui, a joué avec Sarah Bernard et il a croisé la route de deux jeunes comédiens à l'époque que vous imitez sur scène dans votre spectacle.
Belmondo et Galabru, c'est très joli. Galabru, je le savais parce que j'avais vu des photos chez ma grand-mère de Galabru très très jeune. Et puis un jour, Jean-Paul, quand on a joué la puce à l'oreille, il a malheureusement perdu sa maman pendant les représentations. Et un jour, il me dit, dis-moi, ton grand-père, comment il s'appelait? Je dis, bah, Duléry, Direva. Il me dit, j'ai joué avec lui. Et il me sort un vieux programme, ça je savais pas du tout, où il avait fait une petite tournée comme ça, avec Galabru et mon grand-père. Donc c'est marrant, mon grand-père m'est revenu par Michel Galabru aussi.
Et déjà très tôt, enfant, vous aviez créé un personnage un peu comme...
Tchekompolilos.
Tchekompolilos, alors c'est qui celui-ci?
Alors Tchekompolilos, c'était un petit personnage comme ça, c'est là où je suis quand même un peu givré, qui me permettait de dire beaucoup de choses. Donc un jour j'avais traité mon père de con, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tchekompolilos.
C'était un personnage imaginaire,
c'était un petit double. Ah oui, non, mais j'étais limite, tu sais...
Il fallait vous occuper, quoi, donc vous êtes dit bon...
Tchekompolilos, je sais pas ce que c'est, un espèce de grec, comme ça, qui m'accompagnait. C'était comme un espèce de doudou qui était en moi. Un peu barjou, je suis un peu barjou aussi, attention, hein, je suis un peu...
Ah mais on est
au
courant,
je suis un peu perché, hein, j'avais un double, quoi. C'est là où tu te dis que le spectacle, enfin, parle de ça aussi, quand même. Pourquoi tout le temps être derrière? Pourquoi tout le temps imiter? Sois toi-même, Antoine. C'est ça aussi, le film, le spectacle.
Sois toi-même, et justement, en 1980, vous devenez vous-même... Les débuts au cinéma et au théâtre.
Ouais. Alors, les débuts aussi au théâtre, ma première pièce, nous sommes en 80, Albert Algou, 1980, Antoine Duléry joue sa première pièce, il ouvre la porte, 1980. Non, je joue ma première pièce en 1980, et donc j'ai 20 ans, et je joue avec Isabelle Mergault.
Ah, voilà. Et vous commencez aussi au cinéma, 80.
Ouais, celle qu'on n'a pas eue, je crois, de Pascal Thomas.
Pascal Thomas.
Avec Jean-Pierre Darroussin. Jean-Pierre, on s'est connus en 79-80. Ouais, c'est ça, le film sort en 80, je le fais en 79. Voilà les premiers pas, mais la première pièce avec Isabelle Mergault. Tu sais la faire, Isabelle Mergault?
C'est une copine à moi.
Eh ben voilà, moi aussi, c'était ma copine. C'était une copine très proche.
Très proche.
Ah, mais moi, c'était une copine très, 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 très proche.
Du dossier.
Et donc, simultanément, théâtre, cinéma, vous vous dites, il n'y a pas besoin de choisir.
Ben, si, quand même, j'ai fait plus de théâtre. Je commence vraiment par le théâtre. Je fais beaucoup de théâtre. Après, je...
T'as trop de galères ?
Non, parce que finalement, j'ai toujours travaillé. Moi, j'ai eu la chance. J'ai fait beaucoup de radio aussi. Je suis venu beaucoup ici. Il y avait un type formidable qui s'appelait Pierre Billard qui faisait faire des radios à plein d'acteurs. Je me souviens avec Agnès Jaoui, tout ça. Je me suis retrouvé avec Marcel Bossuif. Il y avait des trucs. Et on lisait des trucs. J'ai fait des films industriels. J'ai fait des sitcoms. J'ai fait des... Alors, j'ai toujours travaillé. Puis, à côté de ça, évidemment, je faisais du théâtre et tout ça. Donc, voilà. Et comme disait Ciro, c'est bien. Au moins, tu travailles. T'es pas comme ces acteurs qui attendent le premier rôle tout de suite. Toi, au moins, tu travailles, je te vois à la télé, tout ça, c'est bien. Non, je crois que c'était un apprentissage, j'ai fait des sketchs, des trucs, j'ai tout fait, mais c'était super parce que je gagnais ma vie. Un comédien, c'est quoi? C'est quelqu'un. C'est ce que m'avait dit Céroux. Un comédien, c'est quelqu'un qui gagne sa vie en faisant ce métier.
Et c'était quoi plutôt comme rôle quand vous proposez? Est-ce que vous étiez un peu catalogué dans une certaine mesure?
Oh, bah, très vite, j'étais plus catalogué dans la comédie, c'est sûr. J'étais plus un acteur de comédie, un valet de comédie. Si j'étais au théâtre, ce serait un valet de comédie. Et puis après, évidemment, les gros succès populaires ont emporté ça avec Gatineau, Camping, tout ça. Mais j'aime bien faire des choses très différentes. Donc dès que je fais des rôles un peu dramatiques, tout ça, ça me va bien, ça me plaît bien.
Tu vois. On reviendra à Gatineau tout à l'heure, mais pour l'instant, on fait un petit arrêt en 1995-1996. Full Sentimental, Alain Souchon. Et là, c'est le théâtre, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est La Puce à l'oreille, mais c'est le cinéma également avec Les Misérables.
C'est ma grande rencontre. Alors, j'ai fait évidemment d'autres films. J'ai fait tout ça pour ça un peu plus tôt, avec Lelouch, où là, il m'a fait d'ailleurs faire des imitations. Et puis après, il me dit tu aimes bien Jean-Paul Belmondo? Je fais non, pas du tout. Il me dit tu vas jouer avec lui. Et c'est ma rencontre avec Jean-Paul en 94. Donc, rencontre très importante, puisque à la suite de ça, Jean-Paul m'engage dans La Puce à l'oreille. Enfin voilà, c'est lui qui parle à Bernard Murat de moi, etc. Enfin, et me voilà pendant 9 mois sur scène de 96 à 97. Ouais, c'est beaucoup. Et là, pendant ce temps-là.
Vous l'avez jamais rencontré avant hein,
Jamais.
Alors ça fait quel effet?
Ah bah c'est impressionnant. J'ai été voir Tailleur pour Dames qui jouait et puis j'ai frappé à sa loge et il m'attendait et il m'a dit alors, je crois qu'on va se voir bientôt. Tu sais, un peu comme. Comme Gabin avait fait avec Ventura, enfin, toute humilité. Et j'ai fait oui, on se voit bientôt. Puis bon, après, le premier jour de tournage, je suis arrivé à Besançon. Et là, je suis arrivé dans un hôtel. Il y avait. Il s'était caché avec Tiki Olgado. Ils avaient envoyé son maquilleur dans un truc qui n'existait pas. Et ma première rencontre, c'est avec Jean-Paul. Il me dit viens, cache-toi. On l'a envoyé dans un truc qui n'existe pas. Et il avait une chèvre. Dès que l'autre est parti, on a tout viré dans la chambre de Charlie Courbet-Serrin, mais tout, hein. Et on a mis la chèvre dans la baignoire, une chèvre vivante. Et on a attendu le retour de Charlie Courbet-Serrin. J'ai dit donc ça va. Je suis bien parti avec Jean-Paul. Ma première rencontre avec Jean-Paul, c'est ça. Puisqu'il fait le con sans arrêt. On a mis une chèvre quand même dans
la chambre. Mais comment, la chèvre, ça s'est bien terminé pour elle
On l'a. Ouais. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé après, mais on a passé une très très bonne soirée.
D'accord. Non, ne dites pas ce qui s'est passé. Laissez notre imaginaire.
Ton côté légionnaire.
Un petit peu au travail.
Non, mais c'est vrai que la rencontre était quand même assez drôle. J'ai tout de suite vu quel amour d'homme c'était, qu'il est tout le temps dans la plaisanterie, tout en étant extrêmement professionnel. Donc moi, ça, j'adore.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure les succès. Bah, les succès, les gros succès, ils arrivent en 2006. Il suffira. Oui, qu'un mot d'amour
est pur. Allumez le feu. Allumez le feu.
2006, vous jouez dans Jean-Philippe de Laurent Tuel et vous incarnez Chris Summer.
Oui.
Un rocker qui est devenu star dans un monde où Johnny n'existe pas. C'est pas possible ça.
Si, c'était un film que j'aime beaucoup. Et c'est moi qui l'ai apporté à Johnny par l'intermédiaire de Barbara Schulz qui m'a dit « Écoute, j'ai un copain qui n'avait rien fait, qui a écrit un film pour Johnny. » J'ai appelé Johnny. J'aime pas faire ça. Parce que mais il me dit « Ah si, fais-le lire. » Je dis « Écoute, je sais pas, j'ai pas lu. » Puis une heure après, il me dit « Je le fais. » Je te raconte pas. Sauf qu'il a voulu que j'aille à tous les rendez-vous avec les producteurs. Je l'ai fait avec un grand plaisir. Et après, le film s'est fait, c'était sur. Je l'ai emmené voir Knock avec Lucchini. T'aurais vu Johnny arriver, voir Knock, c'était extraordinaire. Après, j'ai assisté au repas. Lucchini imitant toutes les chansons à Johnny. Johnny me disant, je savais pas qu'il était aussi fêlé. l'autre disant, c'est énorme et tout. C'était extraordinaire. Et après, effectivement, j'ai hérité de ce rôle et ce qui m'a permis de passer beaucoup de temps avec Johnny, que j'adore. Donc c'était un très 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 bon souvenir et j'ai eu des moments magnifiques, notamment un jour je répète la chanson tout seul sur scène là au stade de Villa, enfin à Villa Coublay qui était censé être le stade de France. Il fallait que je fasse mes chansons, tu sais, les labiales. J'étais tout seul. Metteur en scène, bon, pas très chaleureux, il vient même pas me saluer. Je suis tout seul au monde, tu sais, et on m'envoie la chanson et je putain. je suis vraiment perdu, seul au monde, tu vois. Je pose ma guitare, je sais pas quoi, et d'un coup j'entends.
Non.
Je m'approche, et là il y avait mon Johnny avec son paquet de clubs qui fait « Dis-moi, j'étais en train de dîner à la maison avec des amis, et j'ai dit à Laetitia, écoutez, je suis désolé, mais il faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille voir répéter mon ami Antoine. »
Chic.
Chic.
J'ai l'impression...
Voilà, ça c'est Johnny.
J'ai l'impression, vous parlez de Belmondo, vous parlez de Johnny, vous parlez de toutes ces personnes que vous admirez énormément et dont... Et
qui sont des amis aussi.
Voilà, qui sont devenus des amis.
Oui, c'est ça, ça qui est formidable. C'est aussi une réussite. Bah, ouais, c'est formidable parce que c'était des... c'est des... Enfin, ça reste des monstres, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer mes mythes, quoi. C'est un métier qui m'a offert ça, Belmondo. C'est vrai qu'il m'a donné son amitié maintenant, et j'en suis très fier. Très, très fier. Très fier. Et c'est vrai qu'en me retournant, je me dis, si on m'avait dit, tu vois, sur l'île de Bray en 76, que j'étais ami avec Jean-Paul, tu sais, je me serais dit, et puis Johnny, pareil, on est parti en vacances plusieurs fois, et c'est vrai que, voilà, il y a une amitié qui s'est installée. Je suis très fier de ça. Ce sont des gens extrêmement simples et extrêmement gentils dans la vie. Voilà.
Un autre monstre, Gatineau. C'est camping.
Gatineau.
L'aventure camping qui commence.
Fabien Otoniente.
Oui, ça c'est pareil. Il veut rencontrer Mathilde un soir. Il me dit, tiens, je pense
Mathilde
à toi.
Signé.
Ouais, puis il me dit, j'aurais rencontré Mathilde, comment je peux faire? Je sais que tu la connais bien. Je dis, viens. Il me dit, mais t'es fou, il est 11h du soir. Je dis, fais-moi confiance. On a sonné à la porte de Mathilde qui était en chemise de nuit, ça s'est terminé à 5h du matin en écoutant du Johnny, du tu vois ce que je veux dire, du Sardou, etc. Et le film s'est fait. Donc la rencontre avec un rôle, les retrouvailles avec Mathilde, avec qui j'avais fait, que je connaissais bien évidemment, et le succès, le gros succès de...
Énorme carton,
5,3 millions. Et puis après le 2 et puis le 3, enfin voilà, donc effectivement grosse rencontre avec un rôle, donc on m'en parle tous les jours.
Et autre succès, c'est aussi la série de France 2, Les petits meurtres d'Agatha Christie.
Énorme succès sur France 2.
Énorme succès.
Qui indirectement est lié aussi à Antoine Duléry refait son cinéma.
Oui, il y a beaucoup de choses
puisque
qui
vous avez renoncé à une...
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai renoncé à la suite pour faire un peu ce spectacle, c'est vrai que ça, vous avez raison mon cher Daniel. Et d'un coup, je le vois, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que Gatineau, oui, on m'en parle tous les jours. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand mon fils avait 8 ans, parce que ça a plus de 10 ans, tu vois, Gatineau. Mon fils avait 8 ans, il en a 20 maintenant, 8-9 ans. Tous les mecs m'arrêtaient dans la rue, me disaient « Oh putain, le bouffeur de Minou !» Alors, mon fils me dit « C'est quoi un bouffeur de Minou ?» Je te raconterai. Et alors après, il a 20 ans, il a 19 ans après, plus tard, et je l'emmène à Verdun. Là, l'année dernière, pour voir le magnifique.
C'est normal, Verdun, il y a les poilus. Hein.
Il y a les poilus. Et donc, je l'emmène là-bas. Non, mais attends, tu vas voir ça. Ben oui. Et je l'emmène voir le musée, tout ça. Il me dit, j'ai envie d'aller à Verdun. Je t'emmène. Et puis, je me retrouve dans ce musée qui est très impressionnant, quand même. Tu vois, où c'est pas gay, hein, le musée de Verdun. Et là, il y a un mec de 40 ans.
Le mausolée.
Non, tu sais, vraiment, le vrai musée.
Qui est à côté.
Oui, enfin, tu vois, qui est quand même chargé d'émotions, tu vois. Et là, il y a... Il y a un type qui était avec ses parents, un mec de 40 ans, et il me regarde dans le musée, il fait « Oh ! Le pineur !»
Mais c'est pas vrai.
Alors mon fils m'a dit « Décidément, tu t'en sortiras jamais. »
Dans un endroit de recueillement.
Alors le bouffeur de Minou, le pineur, parce que ça c'est dans le numéro 2, Mathilde Musée, mon mari est un pineur. Donc c'est assez amusant quand même. Mais bon, oui, c'est un rôle qui me restera toute ma vie, mais c'est déjà super d'avoir fait 3 succès comme ça.
Il y a une suite prévue ?
Pour l'instant, je crois pas. Mais bon,
vous seriez partant?
Si le rôle est bien, enfin si ça continue à être
et quel sera le surnom là peut-être?
Non, on ne va pas savoir. On se laisse le temps
mais
de réfléchir.
Bon, 3, c'est pas mal. J'ai pour l'instant pas de. Je crois pas qu'il y aura de suite pour l'instant. Non. Bon, on demandera à Claude Brasseur ce qu'il veut faire.
Oh là là. Mais alors on accueille tout de suite avant d'avoir la réponse de Claude Brasseur. Guillemette Odissino. Ah, bonjour Guillemette.
Mais bonjour Antoine.
Guillemette qui est journaliste à Télérama, mais aussi ici à France Inter où vous intervenez Guillemette tous les vendredis dans l'émission d'Ali Rebéi, grand bien vous fasse. Guillemette, notre spécialiste ciné, dites-nous, est-ce qu'il y a une petite définition des monstres sacrés? Parce que Antoine Duléry, sur scène, refait vivre ainsi ces grands acteurs. On a parlé de Jouvet, on a parlé de Serrault, de Galabru, de Noiret.
Oui, il y en a beaucoup. Il y a Claude Riche,
Jean Marais,
Barreau. Jean Marais, ouais. Oui, il y en a
alors
beaucoup.
Alors, c'est quoi un monstre sacré, Guillemette?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand vous regardez la définition dans le dictionnaire, il y a juste marqué acteur très célèbre. Alors, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout.
La célébrité ne fait pas...
Non. Et puis, un monstre sacré, c'est plus que ça. Alors, justement, c'est plus que ça. Et maintenant, je vais vous dire, en fait, je ne sais pas. Parce que le monstre sacré, c'est du domaine du mystère, du charisme. Quelque chose qui dépasse la célébrité, qui dépasse la beauté, qui dépasse même la notion de star. C'est-à-dire que Michel Simon est un monstre sacré. Est-ce qu'on va dire que c'est une star? Brigitte Bardot est à la fois une star et un monstre sacré.
Et comment on l'explique?
Mais il y a des cases, alors il faut cocher. Tous les acteurs dont Antoine Duléry parlait tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement, la fin du jour, c'est-à-dire les Jouvet, les Michel Simon, les Michel Serrault aussi plus récemment, parce que il y a une voix. Mais ça tombe bien que vous les évoquiez, que vous les imitiez.
Ils ont une identité vocale qui fait qu'on sait que c'est eux.
Il y a une identité vocale absolument, qui ne peut pas être confondue avec avec d'autres, et il y a une folie.
Oui, c'est ce que
monstre
j'allais dire.
Monstre sacré.
J'allais dire ça, c'est qu'effectivement, je crois que c'est lié beaucoup au comportement. Il y avait des types avant qui avaient un comportement, Michel Faux en parlait, il y avait des acteurs, on disait monstre
XXL.
Sacré parce que il vivait, comme Depardieu. Depardieu est un monstre sacré dans sa vie, dans sa démesure. Et c'est vrai que ces types étaient aussi dans la vie démesurés. Quand Belmondo me parle de Pierre Brasseur, c'était un monstre, les mecs étaient tout en bourré, etc.
Le nombre d'anecdotes, effectivement, sur Pierre Brasseur.
Les Gabin, les Ventura, ça, c'est des monstres. Sacré.
Ah oui,
alors
oui.
Ça veut dire que si ça passe aussi par l'identité vocale, si je résume, oui. Le comportement, aujourd'hui on a un comportement un peu plus lisse, j'ai envie de dire, on parle de Gérard Depardieu, mais est-ce qu'une nouvelle génération de comédiens là pourrait s'inscrire dans cette catégorie des monstres sacrés?
Pour le moment, effectivement, le monstre sacré, en plus il faut un certain âge aussi, hein.
Oui.
On ne devient pas monstre sacré à 18 ans et demi et même à 30 ans.
Hein. C'est pas la même période.
Il y a besoin de
cinéma,
que le charisme prenne son...
Mais justement, dans une période tiède comme celle qu'on vit, celui qui sortira du lot en sortira d'autant plus.
Bien
d'autant
sûr.
Plus vite.
Oui, alors
peut-être
que dans 20 ans, Pierre Niney sera devenu un monstre sacré.
J'espère.
Pour le moment, c'est un très grand comédien.
Voilà.
Il sera peut-être à 60 ans devenu un monstre sacré.
Mais c'est une autre période quand même.
Joue.
Il y avait une autre période. C'était une autre période.
Et puis le monstre sacré aussi, c'est quelqu'un qui pouvait faire les pires excès.
Voilà.
Sans qu'il soit condamné.
Oui.
Enfin, condamné, en tout cas, sans qu'il soit montré du doigt. Ou au contraire, ça participait de
voilà
son aura.
Voilà la légende, oui.
Depardieu a atteint ce niveau. C'est-à-dire que maintenant, Gérard Depardieu peut faire absolument n'importe quoi. On dit, ah, mais c'est Gérard Depardieu.
Voilà, c'est ça.
Mais... ça, c'est le statut de montre sacré. En revanche, avec les réseaux sociaux,
c'est ça.
Les paparazzi partout, etc.,
effrayant.
Vous faites le moindre faux pas.
Alors,
surtout quand vous êtes une actrice, là, soudainement, vous êtes... enfin, en tout cas, ou montrer du doigt, ou moquer, ou juger. Le jour où une actrice pourra faire n'importe quoi.
Oui, c'est pas demain.
Et que tout le monde lui pardonnera, elle sera devenue.
Monstre sacré.
Voilà, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, les téléphones, on est pris tout le temps en téléphone.
Vous êtes vigilant avec ça, les réseaux sociaux?
Oui, parce que c'est vrai que deux, trois fois, j'ai. Bon, voilà, on sort, on est un peu farci, on peut les mecs vous prennent en photo. Maintenant,
mais surtout
on est pris partout,
quand on aime faire le show, quand on est un peu cabot comme vous, on sort une bêtise et tout de suite.
Ah, tout de suite, c'est relayé. Il faut faire très attention et tout le monde vous photographie sans vous demander votre avis. Donc, c'était pas comme ça avant. Hein. Ce que me disait, j'en parlais d'ailleurs avec Belmondo, me dit heureusement qu'il n'y avait pas ça parce que nous à l'époque, ils faisaient les combis, il n'y avait pas de mecs qui les photographiaient.
Ouais, ouais.
Vous pouvez pisser à 5h du matin, moi je pisse, n'importe qui, t'es pris en photo, tu peux te retrouver dans ces journaux de merde qu'on ne citera pas. Voilà. Mais comme pour revenir à ce que vous disiez, il y avait une phrase qui était très belle de Pierre Brasseur qui disait « le talent c'est la personnalité ». Et c'est pas faux. Vous parliez de le vocal, c'est très important. C'est pour ça effectivement j'aime les faire parce qu'ils ont une reconnaissance vocale. Par exemple là, il y en a un qui s'est imposé comme ça, c'est Lucchini. Moi je l'ai connu il y a 30 ans, Fabrice, c'était le mec bizarre dans les films de Romer. Voilà, le mec bon
ouais,
et d'un coup, il a imposé sa personnalité et c'est pour ça qu'il est devenu lui aussi quelque part un espèce de monstre sacré qu'on invite partout, etc., qui est un grand acteur parce qu'il a complètement cette façon de parler qui aurait pu être contre lui, tu vois comme il fait, il a imposé ça.
Oui, mais peut-être
le
aussi.
Le talent, c'est la personnalité.
Peut-être aussi parce qu'il
Albert,
que vous soyez une seule personne face à lui ou qu'il y ait une salle entière, il va faire il va donner avec autant de générosité, si j'ose dire. Il donne énormément.
Oui.
Et
oui.
C'est fabuleux que vous soyez seul avec lui, quatre personnes ou une foule entière.
Oui,
et
c'est vrai.
Ça, c'est monstrueux. Ça, c'est monstrueux.
Mais c'est la personnalité. C'est la personnalité. Gérard Depardieu, qui est un monstre. Quand on le voit dès le départ, il a cette façon de jouer, hein, comme ça, il met pas de poing, Gérard, hein, c'est un bon couteau, j'en veux pas de votre couteau, je le mets là. Vous avez une tête de comptable, je suis comptable, foutez-moi la paix.
Buffet froid,
j'en veux pas de votre couteau. Il a une espèce de démesure, et c'est un génie absolu, parce que quand il fait cette phrase que je cite d'ailleurs dans mon spectacle, à la façon de Sarkozy, qu'il cite Depardieu dans, comment dirais-je, Tenue de soirée, cette scène un peu crue, où il dit, à Michel Blanc qui va l'enfiler, hein, pour être, on a l'impression qui récite du Musset. Or, qui dit des grossièretés, enfin des grossièretés, c'est blié, c'est du génie. Il sait ce génie de la personnalité.
La personnalité, mais aussi qui met le public. C'est le public aussi.
C'est le public, et alors, en fait, là, quand on est monstre sacré ou quand on est vraiment au niveau de la star absolue, je pique ça à Edgar Morin, c'est très chic. Hein.
Tonton.
c'est un tonton un peu plus intelligent que vous, Daniel, qui a un peu plus réfléchi. Mais Edgar Morin disait que la star, ce n'est pas quelqu'un qui attend le public, mais qui est attendu par le public. C'est-à-dire que la star arrive, l'acteur qui va devenir monstre sacré ou star, c'est qu'à ce moment-là de la période, de l'époque,
le public a un besoin.
L'attendait. Ouais. Il y avait un besoin. Ouais, ouais. Il comble un besoin. Et c'est vrai que souvent, par exemple, un Depardieu a comblé dans les années 70 un besoin de folie. Mm-hmm. On sortait d'un cinéma, finalement, des années 60, peut-être un peu avec de la joliesse. Ou avec, c'était Gérard Philippe, c'était autre chose. Et tout d'un coup, la sauvagerie de Gérard Depardieu arrive. Brigitte Bardot, elle arrive telle la femme Rolling Stone en France, et elle change tout, elle fait tout péter, que ce soit la féminité ou le look des femmes, elle change tout.
C'est-à-dire qu'on fabrique
elles
pas.
Elles sont attendues, les stars. Ouais. C'est comme si le public les attendait, les désirait.
Ça veut dire qu'on ne peut pas fabriquer sur un plan marketing un monstre sacré.
Ça va durer quoi ? Ça va durer un temps.
Ce sera un moment,
ouais. Ça va durer un temps, mais ça ne va pas marquer les mémoires. D'autant qu'Antoine Duléry a raison, on ne peut pas fabriquer une personnalité.
Et est-ce qu'il y a un rapport aussi entre monstre sacré et rareté, la présence de la parole ou à l'affiche, à l'écran ?
Oui, ça c'est un petit peu le problème. On parlait des réseaux sociaux qui font que les stars sont tout le temps présentes alors qu'on n'a rien demandé. Ouais. Et elles n'ont rien demandé non plus, les pauvres, mais également cette notion de carrière, un peu de même de carriériste dans certains acteurs, de faire un film tous les ans, ça rend l'acteur quotidien. C'est Marion Cotillard, c'est ma cousine.
Et oui, d'accord.
Et ça,
et encore si un film par an, ça ne se fait plus. Ils font plein de films par an.
C'est un film, deux films, trois films, quatre films.
Voilà, c'est ça, parce que justement, un Belmondo faisait un film par an à une
absolument.
Époque. Pour justement qu'on aille voir le dernier Belmondo. Je faisais un film par an. Le problème, c'est que maintenant, ils font 5-6 films.
Donc peut-être que de jouer
5,
trop,
par an. Ouais. Exactement.
De ça jouer trop, de la rareté, tu le désires. Alors c'est ça exactement. Qui est atroce. Alors que souvent, c'est comme ça aussi qu'on se dit à quel point Marion Cotillard est talentueuse.
Ouais, c'est vrai.
Et à Hollywood, ils la considèrent comme une star. Mais jusqu'à quel point la régularité tue la staritude.
Mais justement, là, vous parliez d'Hollywood. Aux États-Unis, c'est la même chose. Les monstres sacrés, c'est quelqu'un qu'on attend ou c'est quelqu'un qu'on façonne là-bas ?
C'est quelqu'un qu'on attend. On peut reprendre l'exemple de Robert De Niro. Robert De Niro, quand il arrive dans Taxi Driver, l'Amérique a besoin de quelqu'un pour lui dire « C'est à moi que tu parles ?»
C'est pas une raison pour m'engueuler, hein,
mais j'aime bien vous engueuler, Daniel.
Ouais, de temps en temps, mais ça fait pas de mal.
Juste pour finir, ce qui est intéressant, c'est quand on parlait de tous ces acteurs-là et on parlait de Lucchini. En fait, le monstre sacré, c'est celui dont on risque de dire il fait du Lucchini. Ah, il fait du Depardieu. Ah, Montand fait du Montand, Gabin fait du Gabin.
C'est une caricature de soi.
Oui, mais en même temps. C'est ces gens, c'est quand on est à ce point de dire ça, ils sont devenus des monstres sacrés.
Et qu'ils entrent dans le patrimoine.
Je me souviens, un jour Noiret, je crois qu'on lui avait dit ça, on lui avait dit, mais il avait eu une critique, je sais pas quoi, Noiret fait du Noiret. Il avait répondu, oui, mais c'est quand même ce que je fais de mieux.
Et voilà.
Merci Guillemette.
Merci Guillemette.
Et je peux dire que le plus gros rôle d'Antoine Duléry, c'est dans Des vents contraires.
Ah, merci beaucoup.
Rôle dramatique, magnifique.
Bien sûr, mais j'en parlais tout à l'heure, j'adore ces rôles-là et j'espère en faire de plus en plus.
Des vents contraires, Jalil l'espère.
Voilà, d'ailleurs.
Avec Benoît Magimel, j'invite les auditeurs à regarder ce film.
C'est très gentil, merci parce que c'est un rôle que j'aime énormément.
Merci Guillemette d'avoir été avec nous. On te retrouve dans Télérama, mais aussi ici sur Inter avec Ali Rebéi tous les vendredis. Merci Guillemette.
Alors Télérama m'a fait, je fais une petite parenthèse, que j'ai fait un rôle dramatique aussi dans un unitaire qui est passé l'autre jour qui s'appelle Quand je serai grande, je te tuerai. Je faisais l'assassin, mais on ne le savait pas. Et j'ai une très belle critique dans Télérama.
Voilà.
Je suis très heureux. Pour un rôle ambigu d'Antoine Duléry. Donc décidément, ces rôles-là, merci d'avoir cité Les vents contraires.
Décidément, il a tout pour lui. Lui, il a moins de choses pour lui. Mais bon, voilà, il est quand même avec nous.
Non, mais c'est des rôles que j'aime bien. Voilà.
Il sera présent surtout en deuxième heure pour décliner son désengage de l'actualité. C'est Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau, vous êtes là et vous avez une devinette pour nous, il paraît.
Oui, qu'est-ce qui rythme les saisons, qui n'a pas de culotte, qu'on plaque sur un mur et qui coûte 14 euros?
Oh, j'ai beaucoup de réponses.
C'est le calendrier 2018. Clara Morgane, hein, du nom de cette ex-star du X qui reste dans l'alphabet, hein, puisqu'elle ne fait plus du X.
Tanguy Pastureau qui développera, si je peux me permettre, à midi 10. Leïla, mon petit chou, vous voulez nous parler d'Antoine Duléry, nous faire un petit récap de son actualité. C'est jusqu'au 31 décembre, c'est au Théâtre de la Gaîté Montparnasse.
Oui, Antoine Duléry, toujours avec nous pour Antoine Duléry. Nous, refait son cinéma au Théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'au 31 décembre. Et s'il fallait garder un seul personnage?
Ah la vache, ah, c'est compliqué.
Celui où vous prenez le plus de plaisir.
Oh, il y en a, je les aime tous, je sais pas, j'aime bien faire mon temps dans les feuilles mortes, ouais, et puis j'aime bien faire Céro aussi quand même, je veux dire. Mais enfin, c'est compliqué, hein, c'est comme choisir mes
j'avoue
mes...
que le public est ouais, complètement conquis.
Oui, la biscotte.
J'ai vous avez compris, biscotte. Il va nous donner du plaisir jusqu'à midi et demi, Antoine Duléry. Oui, parce... à tout de suite. La bande originale, c'est reparti les amis, toujours sans Nagui. Et pour ce dernier jour de la semaine, nous avons quand même autour de la table Albert Albou.
Bonjour.
Marina Rollman. D'ici quelques instants, il va désinguer l'info. Tanguy Pastureau.
Tanguy.
Je suis un peu en deuil parce que c'est la dernière journée que je partage avec elle. Leïla Kadour Boudadi.
Parce qu'au bord, Daniel Morin, merci. Et notre invité dans la bande originale, c'est Antoine Duléry.
Bravo.
Antoine Duléry nous refait son cinéma au Théâtre de la Gaîté Montparnasse dans une ambiance survoltée avec un public en délire qui a le droit à tout, même à une petite partie très intime.
Ces parties intimes sont toutes petites, c'est ça qu'il faut comprendre.
Ah oui. Non, je croyais que j'en avais écouté. Oui. Bah, à un moment donné, mais je vais peut-être pas le dévoiler quand même.
Non,
si
bon. Mais vous mouillez le maillot, on
je
va dire ça.
Je mets le maillot, ouais. Et effectivement, à un moment donné, je
j'aime bien, vous êtes complètement interdit là, tout d'un coup.
Non, pas du tout, parce que c'est une surprise.
On en parle.
Oh non, si, je vais le dire. Non, parce que dans la salle, je dis que je ne le fais pas. Mais si, je fais le sumo. Voilà, donc je monte mon postérieur parce que c'est aussi... Alors, il y a des gens qui n'aiment pas. Ceux du premier rang. Non, mais je le fais parce que ça me ressemble. Ce spectacle me ressemble, sinon ça ne valait pas le coup de le faire. Et j'ai aussi ce côté potache.
Ouais.
Et je le faisais dans la vie. J'adore faire le sumo. Je l'ai fait, ça a fait beaucoup rire les copains. Donc j'ai dit... Je vais le faire dans mon spectacle.
Le problème, c'est que vous le faites aussi dans la rue. Et il y a des photographes qu'on vous retrouve de face et de derrière aussi, mon cher Antoine.
Oui, c'est ça. C'est un peu, voilà, ça fait partie de moi, ce côté potache aussi.
Alors, on évoquait tout à l'heure votre tendresse pour un des personnages. C'est Michel Serrault, que vous jouez merveilleusement bien sur scène. C'est donc, je rappelle, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce qui vous plaît dans sa carrière à lui, à Serrault?
Serrault, ce qui me plaît, c'est que ça a été un acteur d'abord de Il a tout fait, il a fait des petits rôles, des trucs, il a fait des, comme il disait lui-même, des navets, des conneries comme Darry Cole, comme tous ces mecs-là.
Galabru, et puis,
Galabru bien sûr, mais tout de suite on voit que c'est un acteur de génie qui lui aussi impose sa personnalité, voilà, on en parlait à l'instant, avec son côté comme ça, un mec qui met des muets partout, hein, ça va ma petite cocotte. Bon, voilà, il impose sa personnalité.
Regard, il a un regard de fou.
Ouais. Et puis il fait des rôles géniaux, il est génial dans la comédie, et puis d'un coup dans le drame, il prend une démesure extraordinaire, garde à vue. Je trouve que c'est des carrières extraordinaires, c'est des rêves, parce que les types, ils font tout, quoi. Puis ça monte en puissance sans arrêt, quand on le voit avec Sauter après, etc. Et puis, en même temps, il était génial, oui, dans toutes ces comédies. Donc moi, voilà, qu'il fasse les deux genres, pour moi, c'est vraiment des exemples. C'est pour ça que j'adorais ce mec-là. Et j'ai eu la chance de le connaître un petit peu, il m'aimait bien, et grâce à lui, j'ai fait deux films, un film avec Tchernia et un autre film, et il était toujours très gentil.
Tous ceux que vous imitez, vous dites, j'avais de la chance, il m'aimait bien, est-ce qu'il y en a qui vous aiment pas?
Non, mais c'est vrai que ceux que je... Enfin, j'en sais rien, là, peut-être qu'ils m'aiment pas. Non, mais ceux que je fais, c'est vrai, c'est ceux avec qui j'ai eu de bons rapports, mais c'était parce que c'est pas que moi, mais Serrault n'était pas toujours facile, hein, attention, hein. Il pouvait avoir des colères terribles, je l'ai vu piquer des colères, mais c'est vrai qu'il sentait que je l'adorais aussi, donc je lui ai dit, donc forcément, il était touché. Et voilà, mais non, mais c'est vrai que j'ai rencontré. Mais tous ces gens étaient extrêmement bienveillants et gentils. C'est vrai, c'est des grands, les grands sont
tout
sympas.
À l'heure, tout Albert le mentionnait, vous moquez gentiment de notre ami, comment il s'appelle?
Lucchini?
Non.
Huster?
Ouais, Huster, mais c'est avec beaucoup de bienveillance aussi.
Francis Huster.
Parce que Francis, je l'ai connu, j'avais 18 ans, j'ai travaillé au théâtre avec lui. Alors je l'écorne, mais
gentiment.
Mais parce que je les aime bien, tous ces gars-là aussi. Mais tous les grands sont général très des gens très sensibles et très sympas. C'est les petits qui sont souvent des ringards, tais-toi. Mais moi, quand on rencontre ces monstres et qui sont aussi sympas que dans la que dans les films, c'est extraordinaire. Moi, ma rencontre avec Jean Marais était aussi extraordinaire. Quand Huster m'a dit après la première répétition où Jean Marais était là, il lui a fait tu es venu comment, Jeannot ? Écoute, je suis venu en taxi. Il dit, ah non, tu vas pas prendre le taxi, on va te ramener à Montmartre. Et il se tourne vers moi, il me dit, Antoninus, il m'appelait Antoninus, Francis Tatabagnole, j'avais la petite 620, Fiat 127 jaune de ma mère. Je dis, oui, pourquoi? Tu vas ramener Jean Marais. Et moi, à 25 ans, je ramène dans la bagnole de ma mère Jean Marais à Montmartre. Tu t'imagines dans quelle étagère?
Rue Norvins.
Oh, dans quelle étagère?
Rue Norvins.
Rue Norvins, tout en haut, tout en haut.
Lui aussi, on le voit traîner dans le nord de Paris, dans des petites voitures exiguës avec des personnages quelquefois un peu étranges. Interlope. C'est l'heure de retrouver Tanguy Pastureau.
Voiture sans permis. Hein.
Tanguy, vous vous êtes penché et vous vous penchez encore ce midi sur les calendriers sexy.
Oui, car l'année 2018 approche et avec elle la fin du monde. Il fait de plus en plus chaud, la mer monte, partout il y a des ouragans. Lara Fabian a sorti un nouvel album et Manuel Valls porte un bouc. Et nous on reste là à vivre notre train-train quotidien. On se lève, on va à la bande originale, on voit Daniel Morin. On lui dit bonjour Daniel, il répond va crever. On dit à Marina Rollman qui est suisse, tu tapes vraiment 600 km pour vivre ça? Elle répond oui mais c'est super, Inter m'a prise en tant que travailleur détaché, ce qui fait que je suis payé comme en Suisse, 7000 euros la chronique, plus de la drogue et du chocolat. Bref, on vit comme si on ne sentait pas l'apocalypse arriver. Et au lieu de stocker plus de nouilles qu'il n'y en a jamais eu dans le slip de Delormeau, on bosse, on s'abrutit et le soir exténué, notre soif de désir charnel est aussi petite que l'est l'envie de Jean-Pierre Bacri de danser la queue leu-leu. C'est pourquoi au lieu de copuler tristement avec la personne dont on partage ce quotidien insipide, on se tripote laborieusement devant le calendrier 2018 de Clara Morgan. Alors Clara Morgan, c'est cette actrice de X qui a tourné 7 films, hein, dont Le journal de Pauline, un film où on voit très peu le journal et beaucoup Pauline. Et La Totale, pas le film de Claude Zidi, hein, l'autre, à l'époque plein de gens ont confondu et attendu en vain pendant 2 heures que Thierry Lhermitte fasse l'amour à Miu Miu, tandis qu'Eddie Mitchell lui dit « Je te reconnais, c'est toi, la fille du motel ». Alors il y a 10 ans, Clara Morgan annonce qu'elle arrête le X, laissant ses admirateurs en pleurs. S'il leur était resté des Kleenex, ils auraient pu se moucher. Donc là, on se dit « C'est bien, elle a 25 ans, elle va rebondir, faire des trucs nouveaux comme porter des vêtements ou se pencher pour refaire ses lacets d'esprit tranquille. » Mais non, elle a continué dans le charme et chaque année sort un calendrier sexy à rendre fou de désir un nonagénaire aveugle et gay. Le 2018 vient de sortir, alors on y voit Clara nue sur les toits de Paris. Jusqu'à présent, seuls les pigeons faisaient ça. À un moment, elle a même essayé de se poser sur une antenne râteau.
Et c'est loin d'être le seul calendrier Tanguy à être en vente en ce moment, le calendrier hot, bien
bah
sûr.
Oui, hot. Ouais, il y en a plein. Hein, pour 2018, on a celui des dieux du stade, évidemment, hein, les rugbymen à poil. C'est le catalogue des timbrés du slip qui veulent mater de l'entrejambe à grosse nervure. On y expose plus de viande qu'au rayon boucherie du Lidl. À côté, Miss France, c'est un congrès de pasteurs mormons. La thématique cette année est la disco, c'est-à-dire que les types posent avec entre les jambes une boule à facettes qui finit toujours par glisser, si bien qu'on leur voit les poils pubiens. On a l'impression de voir apparaître le visage de Noël Mamère au studio 54 à New York en 79. Il y a aussi le calendrier des sportifs 2018 pour les types qui ne font pas de rugby et étaient quand même tentés par l'exhib. Alors on y retrouve Sylvain Potard, hein, qui a déjà fait les dieux du stade. Il avait posé nu de face, si bien qu'on lui voyait l'oiseau, qui était en fait un condor des Andes. Hein, on avait l'impression qu'un fakir indien allait jouer du pipeau et que le truc allait se mettre à danser la rumba. Toute sa vie, Potard va faire des calendriers en fait. Hein. Quand il sera moins ferme, il posera nu avec un chaton et ils feront celui du facteur. Alors c'est pas fini, il y a aussi le calendrier Belle des Prés 2018, ah bon, celui du monde rural. C'est, hein, c'est comme l'émission de Karine Le Marchand, sauf que le mouton a sa petite laine, mais pas la propriétaire du mouton. Alors ce sont de vraies agricultrices, hein, qui posent nues au milieu des cultures. Elles sont donc bourrées de pesticides. Pas besoin de citronnelle, si un moustique les approche à moins d'1m30, ils claquent. Sinon, il y a le calendrier sexy des pompiers. Hein, on a envie de foutre le feu à son appart juste pour les voir débouler. Mais bon, les calendriers, c'est comme les plats préparés, hein, ce qui en photo, c'est jamais ce qu'on a en face de soi à la fin. Il y a également le calendrier sexy de Baptiste Giabiconi, le toy boy de Lagerfeld, qui pour le mois de mars pose en collier de cuir avec une chaîne en métal. Il a la vie de mon chien. Hein, moi, si un jour je le vois, je lui lance une balle. Et même les joueuses de rugby de Monceau-les-Mines ont leur calendrier 2018 où elles sont nues. En fait, le projet l'année qui vient, c'est qu'il n'y ait plus un individu en France avec des fringues. Plus la société se déshumanise, plus on en revient à l'animal, quoi. À la la chair. Alors Morin, Duléry, Rollman, Algou, Kadour Boudadi, hop, tous à poil. Midi et demi, c'est calé, on pose sans rien, avec juste un micro devant le oui-oui. Hein, c'est moi qui vends le truc. À raison de 3 euros le calendrier, on devrait pouvoir se faire environ 3 euros.
Tanguy Pastureau.
Tanguy Pastureau et son oui-oui.
Il est bon ce Tanguy.
Il est formidable.
Qu'est-ce que tu m'avais dit, toi?
J'étais sous.
Il est vachement bon ce matin, il m'a dit, tu vas voir. Ils sont très, très, très bons.
Il est bon camarade, Daniel, c'est sûr.
Ah non, il est très bon camarade.
Forcément.
Oh la vache, putain. Quel calendrier. J'ai pas du tout apprécié ce qu'il a dit sur mon petit protégé. Je n'ai pas du tout apprécié ça, parce qu'en même temps, c'est absolument rien à faire avec un chien. Rien du tout. Il est au contraire très très bien. On dirait Laïla, comme ça, avec un collier. Très très belle. On pourrait reprendre ce truc, le remettre comme ça. Super, vous êtes super. On dirait un peu Inès de Lofressange.
Antoine Duléry, vous êtes là toujours en train d'observer. Je vous vois même pendant les chroniques, vous observez tout le monde. En ce moment, vous vous bossez sur quelle imitation? Est-ce que vous la bossez? Vous êtes en train de vous saisir de qui en ce moment?
Non, je ne sais pas. Oui, j'aime bien observer. Lui, Tanguy, je ne l'avais jamais vu en vrai.
Ouais.
Daniel Morin m'avait dit qu'il était affreux. D'abord, il n'est pas affreux. Et en plus, il est.
Alors, il est pas beau.
Non, il est pas beau, mais il a beaucoup de talent.
Enfin...
C'est l'inverse de toi.
Il a une
lueur
expressive.
Toi, tu es beau, mais tu n'as aucun talent. T'es chier, toi, Daniel Morin. Non, mais je sais pas. On va voir, mais ça vient comme ça. Je ne décide pas. Je regarde mon camarade Albert Algou. Il est très beau, mon copain Albert Algou. Il est très bon.
Et vous chantez aussi, parce que l'imitation, elle se limite pas à la parole.
Non, c'est-à-dire que je fais un peu Charles Aznavour, parce que bien, je fais Charles à un moment donné, parce que voilà, il faut que je peux pas dévoiler pourquoi je le fais, mais il y a une justification. Et puis sinon, je fais aussi un peu Montand, parce que j'aime bien le faire. Et puis Montand, c'est aussi un vieux souvenir, un vieux rêve. Je l'avais vu à l'Olympia, et tout ça. Et donc, je suis ravi de faire « Les feuilles mortes se ramassent à la pelle ». Tu vois, ce côté musical me plaît bien. Et puis voilà, on en met. Alors, je fais ça, puis je fais Béco un peu aussi. Voilà.
C'est un très beau spectacle, Antoine Duléry.
Merci beaucoup, Léa.
Au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, Antoine Duléry nous refait son cinéma jusqu'à la fin décembre, et on espère encore plus longtemps.
Ah bah oui, je crois qu'après on va faire une tournée.
Ouais.
Oui, on voit ça avec nos producteurs, et puis peut-être le reprendre dans un autre théâtre, ou continuer.
Parce que ceux qui l'ont vu déjà il y a quelques années peuvent revenir, parce que vous avez ajouté de nouveaux personnages.
J'ai ajouté des personnages, j'ai ajouté quelques... Je vais pas dire, parce que comme ça, ça sera une surprise.
Voilà.
J'ai ajouté... Oui, c'est pas tout à fait le même quand même. C'est nous refait son cinéma.
Et ben c'est vraiment bien parce que c'est plus que
oui,
c'est au-delà de l'imitation.
Oui,
moi je connais
ça.
Bien les imitateurs et je trouve que c'est au-delà et il y a de la poésie et ça parfois ça manque dans certains spectacles.
Et là c'est
merci
une très
Albert,
belle histoire.
C'est vraiment ce que je voulais faire parce que je ne suis pas imitateur, je suis je suis un imitacteur.
Ah, ça c'est bien.
Eh ben, il y en a un qui est ni imitateur, ni limitateur, ni c'est Daniel Morin et c'est le moment. C'est pour toi, Daniel.
Morin, il est formidable.
Aujourd'hui, 27 octobre, c'est jour de fête, les petits amis. Eh oui, aujourd'hui, non seulement, nous avons la visite d'Antoine Duléry.
Oui.
Mais ça tombe pile poil le jour de la fête nationale du Turkménistan. Vive le Turkménistan, pays de, pays peuplé de, et pays au paysage si, non, on s'en fout du Turkménistan. Oui, non, on s'en fout. Alors, autour de cette table, qui déjà fait une partie de tennis avec un Turkmène? Personne.
Non.
Ben voilà. Aujourd'hui, en revanche, il y a un truc super bien. C'est la journée européenne de la dépression. C'est aujourd'hui. Eh ben
enfin.
Ça, on connaît tous. Hein. Rien qu'en jetant un coup d'œil circulaire autour de cette table ronde, on croise du regard du dépressif. Hein. En même temps, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, la dépression, c'est. C'est pour ça que si un jour un de vos amis montre des signes inquiétants de détresse psychologique, vous devez tout faire. Oui, tout faire pour le sortir de là. Rien que d'y songer, des pensées lugubres sont venues envahir mon sommeil et polluer mes rêves. Dans mon rêve, je suis chez moi, à ma fenêtre, en train de jeter des cailloux sur les vieux dans la rue. Quand d'un seul coup, j'entends frapper mollement à ma porte. Oh, Père Albert, comment ça va?
Bof. Qu'est-ce que ça, Daniel?
Qu'est-ce qui vous arrive?
Je sais pas, je crois que je fais une petite déprime, mais moi, c'est rien.
Donc comment ça, rien? Pas du tout, c'est très préoccupant. Faut juguler tout ça tout de suite.
Tu proposes quoi?
Ouais, on va s'écouter un peu de musique.
Bon, si tu veux.
C'est bon, non? C'est bon, hein?
Moi,
ah, ça fout la patate!
Non, pas vraiment. T'as pas autre chose?
Si, attendez voir. Ah bah oui, suis-je con?
Ah oui,
oui,
oui, oh oui, au nom de Dieu, bien vu Daniel,
ouais.
Je me sens regonflé en bloc,
ouais.
Putain, j'adore ce titre, ça me rappelle mes années Erasmus à Ibiza.
Ah bon bah tant mieux.
T'as pas du poppers?
Ah bah non, faut pas pousser non plus, hein. Non, j'ai pas de poppers.
Bon, j'étais content, le père Albert allait mieux, beaucoup mieux. Je pouvais reprendre mon caillassage de vieux dans la rue. Quel pied ! À peine le temps de célébrer un jet en plein dans la canne d'une vieille et au visage acariâtre que la porte vibre à nouveau. Oh la vache ! Fabrice Lucchini, quelle surprise ! Vous allez bien ?
Non, ça va pas du tout, Daniel. Je suis au bout du rouleau. J'ai grave les boules.
Mais qu'est-ce qui vous arrive ?
Putain, je sais pas. Je sais même pas si ça le pire. Si je savais, je pourrais agir. Mais là, c'est l'ignorance totale de mon mal qui me plonge encore plus dans le spleen.
Enfin, Fabrice, vous avez tout pour vous.
Je sais, mais pour une raison que j'ignore, aujourd'hui, je me sens bête, je me sens sale, je me sens laid. Tu sais quoi, Daniel ? Non. J'ai l'impression d'être toi.
Quoi ?
Oh, nom de Dieu !
Ah, excusez-moi, je vous ai fait mal, Fabrice, je voulais pas taper si fort.
Non, mais c'est énorme, c'était une baffe rabelaisienne que tu viens de me mettre, c'était génial !
Ah bah, si ça vous plaît.
Oh, mais t'es un génie, tu viens de me fissurer la mâchoire, c'est mieux que le marquis de Sade. Vas-y, une dernière fois, j'adore. Putain, je viens de perdre deux dents, c'est hallucinant. Je suis en plein trip, Émile Zola, avec un peu de chance. Je vais attraper la tuberculose. Merci, mon Daniel.
Salut, Fabrice. Alors, une fois Fabrice parti, je me précipite à ma fenêtre pour dézinguer du seigneur. Même pas le temps de jeter une caillasse que cette fois, c'est Franck Ribéry qui arrive chez moi. Bonjour Franck, qu'est-ce qui vous arrive ? Putain Daniel, je suis tout à la déprime, j'ai plus le goût de la vie, j'avais tout arrêté le foot, je vais faire un ping-pong. Voilà, ça va pas fort Francky. Non, je suis déporté, j'ai pas moral. Tenez, Franck, venez avec moi, venez à la fenêtre. Putain, tu veux que je chante comme un pierre dans le vide ? Tu veux que je descende et crache comme un vieux bâtard ? Mais non, pas du tout, non, non, mais tenez, prenez cette pierre et faites comme moi. Puis on a jeté des cailloux. Ouais, tout simplement jeté des cailloux sur les vieux. On a fait ça pendant 2 heures. Vous savez quoi ? Eh ben, ça leur donnait le moral à mon Francky. Ne passons pas à côté des choses simples. Allez, à demain 7h pour le best-of et dimanche même heure pour vous les femmes.
Bravo, bravo. Et merci Antoine. Allez, on continue à discuter après. Futuro Pelo, Hands.
Toujours bouger.
Ends, Futuro au Pélo dans la bande originale. Jusqu'à midi et demi, nous sommes toujours en présence d'Antoine Duléry.
Oui, pardon.
Ah, nous avons un petit aquaplanning de Léa.
Oui,
petit problème de langue qui a dérapé.
Ouais, je sais pas.
Est-ce qu'on peut apporter une éponge et une serpillière?
Challenge Blédina.
C'est le dernier jour, Léa. Tu sais, je comprends, une petite sortie de route. Il va falloir changer quelques pièces.
C'est Antoine,
vous avez quelques projets à venir là. Parlez-nous de vos projets.
Oui.
Qu'est-ce qui s'annonce, Antoine?
Qu'est-ce qui s'annonce? Oh, il y a des choses. Non, il y a des. Là, je viens de terminer deux films pour la 3 là qui vont passer, qui s'appelle Crime Parfait là, qui est un des films un peu à la Columbo, donc qui était très amusant à faire.
Vous incarnez quoi? L'enquêteur.
Je suis l'enquêteur, voilà.
Avec et votre spécificité d'enquêteur.
Jeune. Ben, ce qui est bien, c'est que c'est on apprend le meurtre tout de suite et c'est comment je vais trouver l'assassin.
Ah, génial.
Voilà. Donc j'ai fait ça, et ce qui est très amusant, c'est que dans l'épisode numéro 2, j'ai croisé Samuel Labarthe, qui m'a remplacé dans Les Petits Meurtres.
Ouais.
Donc enfin, les deux commissaires, commissaire Laurence et commissaire Larosière, se sont affrontés dans cet épisode. Voilà, donc je pense qu'on en reparlera.
C'est un peu Sherlock Holmes contre Hercule Poirot.
Exactement.
Petit
clin d'œil. Non, sinon, il y a plein d'autres projets, mais je n'ai pas en parlé parce que tout n'est pas encore signé. Et puis il y a surtout quand même, tu sais, un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est de réaliser mon premier film, probablement. Voilà, déjà, il faut que je l'écrive avec Guillaume Laurent, qui est un grand scénariste, qui est le scénariste de Jean-Pierre Jeunet, mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur.
Ce serait plutôt quel genre? Ouais, c'est ça, le thème.
Comédie, un peu cynique, drôle, émouvante. Ce sera un film sur la célébrité, un peu qui va beaucoup parler justement du rapport à la célébrité, comment les gens se comportent à tout ça.
Et ça veut dire qu'il va y avoir du monde sur le casting.
Il y a trois rôles importants. Ce qui est très bien.
Vous faites venir les copains.
Vous faites les.
Ah, j'en sais rien.
Faites les trois.
Non, c'est Duléry qui joue les trois.
C'est moi qui joue les trois. Non, justement, je m'entoure de. Voilà, c'est pas un film centré sur moi-même. Hein.
Non,
c'est. Voilà, donc on verra. Mais il y a plein de projets, c'est bien, il faut continuer.
Et dès que c'est signé, vous venez en reparler ici.
Avec grand plaisir. Mais déjà, ce film-là me tient beaucoup à cœur, que je vais donc faire, et ça, on va le faire, j'ai trouvé les producteurs.
Merci Antoine Duléry. Je rappelle, merci Antoine Duléry nous refait son cinéma au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. C'est jusqu'au 31 décembre. Il est temps de présenter ses excuses, mon cher Daniel.
Oh oui, désolé pour Jean Dujardin, Clovis Cornillac ou Guillaume Canet, bref, tous les acteurs qui ne sont pas imités par Antoine Duléry.
Non, mais je
compris
parle
ce matin,
de Jean Dujardin.
Tais-toi, tu es un ringard. S'il ne vous imite pas, c'est juste parce qu'il ne vous aime pas. Désolé pour la chèvre martyrisée par Jean-Paul Belmondo et Antoine Duléry. En même temps, on l'a eu à la pause. Elle garde un souvenir plutôt joyeux de cette soirée. Ça, en plus de quelques petites maladies. Désolé pour Nicolas Demorand. Je vais venir avec toi à l'ambulance. Nicolas Demorand, Laura Adler, Charline, bref, tous les bolcheviks assoiffés de sang qui ont débarqué sabre à la main dans le studio pour se faire Nicolas Sarkozy. Et non, les gars, c'était juste Antoine Duléry qui faisait son excellente imitation de François Hollande.
Merci Daniel, merci Alicia, merci Antoine Duléry. Nous, on a passé une belle semaine avec vous. Dès lundi, c'est le best-of, les meilleurs moments de la bande originale, et on se retrouve à partir du 6 novembre, lundi, tous ensemble avec Nagui.
Nagui et Kadmirat qui sera notre premier invité. Bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir, les amis. Carnet de campagne, c'est tout de suite avec Philippe Bertrand.
Ouais, salut.